René Pujol, Le soleil noir, L'étrange dimanche. Jeanne, M. Sternbal et moi, nous partîmes le lendemain matin au soleil levant pour aller pêcher la crevette. Le port de Rogue de Thau est des plus exigus. En amont de l'embarcadère où accostent les bateaux à aubes qui font le service de Bordeaux à Pauillac, on a creusé un chenal où viennent s'échouer les chalands et les gabarres. Quand ces petits navires sont chargés de barriques, ils profitent de la marée pour remonter lentement le fleuve. Au-delà de l'embarcadère, des prairies marécageuses constituent la berge de la Gironde. Des roseaux poussent dans la vase et font claquer leurs longues feuilles à la moindre brise. Au large, l'île verte et l'île sans pin barrent l'horizon d'une ligne d'émeraude. Plus loin, devant la vieille citadelle de Blaye, le fort pâté s'accroupit au milieu de l'eau limoneuse et par temps clair, on aperçoit confusément l'autre rive de l'estuaire. Tous trois, coiffés de vastes chapeaux de jonc, car la journée s'annonçait aussi chaude que la précédente, nous allâmes jeter nos filets rudimentaires. J'avais moi-même fabriqué ces engins en fixant de la toile à sac sur des cercles de tonneaux. Une tête de morue et des os de mouton nous servaient d'appât. La pêche s'annonçait excellente. En 20 minutes, nous avions pris à peu près 1 demi-kilo de crevettes, lesquelles sautaient à qui mieux dans les paniers où nous les enfermions. M. Sternbal était fier d'avoir capturé une perche américaine qui mesurait environ 5 cm de la tête à la queue. Il se voyait déjà rapportant une friture monstre. Sur ces entrefaites, le vent s'éleva. Ce fut d'abord un souffle imperceptible venant de l'ouest. Mais sa force augmenta avec une grande rapidité. Le fleuve se rida, puis de véritables vagues déferlèrent vers nous. Mon chapeau s'enleva et je dus courir à toutes jambes pour le rattraper. Une bourrasque furieuse courba les roseaux. Un tel sifflement emplissait nos oreilles qu'il nous fallait crier pour nous entendre. « Il va faire de l'orage !» hurla M. Sternbal. Pourtant le ciel restait d'une pureté absolue. Nous pliâmes bagages. Une frayeur instinctive nous poussait vers ma demeure. Ce n'était pas la pluie que nous craignions, puisque aucun nuage n'était visible. Mais nous avions besoin de sentir un toit sur nos têtes. Nous réussîmes assez facilement à sortir du pré où nous nous étions installés pour pêcher. Mais une fois sur la route, le vent nous fouetta de flanc et nous n'avançâmes plus au prix de grands efforts. Jeanne se cramponnait à mon bras en riant d'un rire nerveux. M. Sternbal parlait sans discontinuer, et j'entendais par intermittence les mots « tornade »,« tempête », »,« pire qu'à l'équinoxe ». Je ne répondais pas, occupée que j'étais à protéger ma fiancée. Nous débouchions sur l'avenue du port, quand une épouvantable rafale nous assaillit. J'eus la présence d'esprit de m'étendre sur le sol et j'entraînai Jeanne dans ma chute. Je ressentis une vive douleur au genou, mais je n'y pris pas autrement garde. M. Sternbal fut littéralement soulevé de terre. Je le vis osciller, essayer de reprendre son équilibre, faire 2 ou 3 énormes enjambées et, lancé comme par une catapulte, se précipiter la tête la première contre la paroi d'une baraque de pêcheurs édifiée au bord du chemin. Laissant ma fiancée étendue dans la poussière, je rampais vers mon futur beau-père. Il était assis à croupetons, l'air hébété, avec une bosse énorme au front. Je lui demandai s'il était blessé. Il se contenta de glapir qu'il n'y comprenait rien. Rassuré sur son compte, je me tournai vers Jeanne. Elle arrivait en se traînant sur les genoux et fut bientôt près de nous. Nous contournâmes la cabane pour nous mettre du côté de l'est. Quand nous fûmes à l'abri, une hilarité inextinguible nous secoua. Rien ne paraissait tragique dans notre aventure. Le soleil continuait à resplendir. Le cyclone atteignait son paroxysme. Nous n'eûmes vraiment l'impression du danger qu'en voyant un peuplier se briser net au ras de sa base. Puis, un saule fut déraciné et transporté à 50 mètres comme un fétu de paille. Un cheval emballé passa à fond de train, une carriole vide brinque-ballant à ses trousses. En un clin d'œil, il fut à la barrière du chemin de fer. Il glissa sur un rail et s'abattit. Après avoir rué des quatre pieds, il réussit à se relever et continua sa course folle vers Bribazac et Villeneuve. Un craquement nous terrifia. Monsieur Sternebal fit un bond à droite. J'attirai désespérément Jeanne à gauche. Au même moment, la cabane s'effondra avec fracas. Son toit de bois s'envola et alla tomber dans un champ voisin. « Ne restons pas là, » vociféra M. Sternebal. Nous tenant tous les trois par le cou pour opposer une plus grande résistance au vent impétueux qui nous suffoquait, nous nous dirigeâmes vers l'école, en trébuchant à chaque pas. Nous eûmes la chance d'arriver au but sans autre accident. Le visage de Mme Sternebal s'éclaira à notre aspect. On mit un tampon doigt de féniquet sur la bosse de M. Sternebal et on lui saignait le front d'un turban immaculé. Quelque chose de tiède et de poisseux coulait le long de ma jambe. C'était du sang. En me couchant sur la route, j'avais dû poser le genou sur un tesson de bouteille ou sur un silex tranchant, car j'avais une profonde coupure au-dessous de la rotule. Il fallut me faire un pansement sérieux. Jeanne, plus heureuse que nous, n'était pas blessée. Elle avait perdu la plupart des épingles de sa coiffure et une magnifique chevelure blonde ruisselait sur ses épaules. Ah, le somptueux manteau! Je ne me lassais pas de l'admirer. Dans la hâte de notre fuite, nous avions abandonné nos filets, et, comme on le pense, nos chapeaux de jonc nous avaient quittés. Mais le fameux panier de crevettes était toujours là. Nous décidâmes de les faire bouillir pour le déjeuner. La fureur de l'air ne s'apaisait pas. La vieille maison gémissait. Le vent grondait et soufflait sous les portes, telle une méchante bête. Les fenêtres étaient secouées comme si quelqu'un eût essayé de les ouvrir. Et nous entendions les volets du premier étage gifler rageusement la façade. Je montai pour les fixer à leur crochet, et je n'y réussis pas sans peine. Les bourrasques étaient chaudes comme une haleine de forge. La poussière tournoyait furieusement, entraînant dans sa ronde des papiers, des bribes de paille et de foin, des détritus de toutes sortes. Et sur l'atmosphère en démence, le soleil éclatant continuait à décrire son immuable parabole. En compagnie de M. Sternebal, j'observais longuement le formidable remue-ménage aérien. Le vent ne soufflait pas d'une façon régulière. Le courant principal allait de l'ouest à l'est, de l'océan à la terre. Mais, çà et là, se formaient des tourbillons bizarres, dont la force était verticale, de bas en haut. Par exemple, dans ma cour, une écuelle de fer blanc où venaient boire en temps ordinaire mes poules et mes pintades, s'éleva tout droit à une dizaine de mètres, retomba presque sur place et refit aussitôt la même ascension. Après le repas du midi, la barboque nous quitta pour aller à Vêpres. Nous la vîmes s'éloigner prudemment en se défilant le long des murs, ce qui n'était pas une précaution superflue, car la chaussée se jonchaient de tuiles et d'ardoises arrachées des toits. Quand nous eûmes bu le café, je lus la petite Gironde à haute voix. Naturellement, le bulletin météorologique était en première page et contenait plus de précisions que celui de la veille. Toutefois, les commentaires étaient rares. Les spécialistes se bornaient à enregistrer les faits et réservaient encore leur jugement. La vague de chaleur s'était abattue sur les cinq parties du monde. Proportionnellement, l'élévation de température était moindre dans la zone tropicale. Par contre, les régions septentrionales passaient sans transition de l'hiver le plus rude à l'été le plus clément. Jamais Christiania, Vyborg, Arkhangelsk, Omsk n'avaient connu des journées semblables. La débâcle des fleuves sibériens commençait. Des navires signalaient par sans fil de petits icebergs sur les côtes d'Islande. Et un télégramme parvenu du Klondike disait que les torrents du pays de l'or menaçaient d'emporter la plupart des klebs. Les renseignements manquaient sur la région antarctique et la Patagonie. Un astronome américain, plus hardi que ses confrères, essayait de donner une explication du phénomène. Il parlait d'une excitation de l'incandescence solaire due à des motifs d'ordre mystérieux et s'en tenait là. Un autre, un Danois, signalait l'apparition d'une tache monstrueuse, 10 fois plus grande que celle du 2 février 1905. Mais il avouait que cette tache, observée à l'équateur de l'astre du jour, n'avait été visible que le 25 décembre pendant quelques minutes. Déjà, un Anglais démentait catégoriquement la chose et, s'appuyant sur des constatations antérieures, démontrait que si les taches solaires se modifient avec une rapidité déconcertante, elles ne disparaissaient pas ainsi tout d'un coup. Il affirmait, lui, que les éruptions gazeuses qui avaient lieu à cette époque n'étaient pas sensiblement plus fortes que celles qu'avaient étudiées jadis Mayer et Helmholtz et que les protubérances n'offraient rien d'anormal. Il rappelait ensuite que tous les 11 ans, le Soleil est le théâtre de crises qui, bien qu'ayant lieu à près de 200 millions de kilomètres de la Terre, ne sont pas sans effet sur notre modeste globe. L'accord n'était unanime que sur un point. Tous les savants annonçaient le retour du froid à bref délai. « Nous n'en savons guère plus après qu'avant, » dit Sternbald quand je finis ma lecture. « J'ignore si le froid va revenir bientôt, mais ce qu'il y a de certain, c'est que la chaleur augmente. » Il ne se trompait pas. Nous étions cramoisis, nous étouffions. Il nous semblait que nous étions dans un four et que nous respirions un air embrasé. J'eus l'idée d'arroser copieusement le parquet. L'évaporation très rapide nous procura un soulagement. Nous continuâmes à jeter de l'eau en dépit des lamentations de Madame Sternbald qui jurait ses grands dieux que nous allions faire pourrir le plancher. Ce dimanche promettait d'être mortellement long. Le grondement de l'ouragan nous empêchait de penser librement et une mélancolie étrange commençait à s'emparer de nous. Jeanne essaya de chanter pour dissiper la tristesse. Mais Madame Sternbald la fit taire, et nous restâmes tous les quatre, mornes, préoccupés, à attendre. Je reçus la visite de M. Natochaud, qui s'alarmait de cette tempête prolongée. Me considérant comme un homme sérieux et sensé, il venait me demander ce qu'il fallait faire. « Faire quoi ?» dit M. Sternbald. « Vous n'avez pas, je suppose, la prétention de vaincre les éléments. » Le maire de Roquedetôt se gratta la tempe avec perplexité. Évidemment, non. Mais dans la limite de nos forces, il faudrait peut-être manigancer quelque chose. Et, changeant de sujet, il dit: le vent a fichu mes vignes par terre. Cette nouvelle parut consterner Madame Sternbald, qui, d'habitude, s'intéressait médiocrement à l'agriculture. Monsieur Natechou s'adressa à elle. C'est la ruine, madame. Les piquets sont arrachés et les ceps complètement déchaussés. Le paysan conclut avec un geste énergique: mon devoir de premier magistrat municipal est de réconforter mes administrés. Bien parlé, fit M. Sternbald. Se sentant approuvé, M. Natechou n'hésita plus. Venez-vous avec moi, Dantonneau, demanda-t-il. Nous y allons, dit M. Sternbald spontanément. Ces dames protestèrent. Elles ne voulaient pas nous laisser sortir. Je leur affirmais que nous ne risquions absolument rien. Le maire insista sur l'impérieux caractère du devoir. Mon futur beau-père prononça une phrase émouvante sur le rôle des gens instruits. Et Jeanne et sa maman cédèrent. Ce ne fut pas un départ banal. Sous le soleil de plomb, souffleté par un vent infernal, nous allions au pas, nous donnant le bras comme trois ivrognes. Le maire haussant fièrement sa face maigre, M. Sternbald affectant un air solennel sous son bandeau blanc, et moi, boitillant de la jambe gauche. L'étendue du désastre nous terrifia. Plus nous approchions du fleuve, plus les effets de la tempête s'aggravaient. Bien rares étaient les arbres encore debout. Sauf dans les champs en contrebas, les vignes n'étaient plus que des sarments enchevêtrés. Le remblai du chemin de fer avait protégé une petite partie de la plaine, mais ce qui subsistait était insignifiant. La catastrophe était complète, irréparable. Monsieur Natechou regardait fixement la terre. Cet homme souffrait. Mieux que nous, il comprenait ce que signifiait la destruction du vignoble. Il faudrait plusieurs années de labeur avant qu'on pût cueillir une seule grappe. Le facteur venait à notre rencontre, titubant comme nous. Il vociféra dans la figure de Monsieur Natechou: ça ne marche plus. Quoi ? Cria le maire. Le télégraphe ? Et la tête dans les épaules, il se dirigea vers la gare. Mademoiselle Tournemire, la receveuse des postes, était souriante et désinvolte. En causant, elle se polissait les ongles avec une application soutenue. Ça ne marche plus ? Demanda M. Natechou, répétant la phrase du facteur. Non. « Plus du tout, dit allègrement Mademoiselle Tournemire. Vous allez voir, je vais appeler. » Très élégante, elle actionna à petits coups le manipulateur du morse. « Rien, le silence, dit-elle. Mais ce n'est pas étonnant. Cette forte brise a renversé les poteaux télégraphiques. »« Ah ah, forte brise !» ricana M. Sternbald. Mademoiselle Tournemire eut une moue délicieuse. « Quel grabuge, n'est-ce pas ? Vous avez la migraine, monsieur ?»« Oui, dit M. Sternbald, outré de tant d'insouciance. » M. Natechou recommanda: « Aussitôt que les communications seront rétablies, vous me ferez avertir par le facteur. » »« Oui, monsieur le maire, mais les ouvriers sont si lambins que nous resterons peut-être isolés jusqu'à la fin de la semaine. » Quand nous nous fûmes remis en route, l'indignation de M. Sternbald éclata. « Cette péronnelle est insupportable, dit-il. Le ciel pourrait crouler qu'elle se polirait les ongles. » « C'est jeune, dit sentencieusement le maire. Ça ne réfléchit pas aux conséquences. Vous, vous réfléchissez, M. Sternkan. » « Sternbald, rectifia tue-tête mon beau-père, En effet, je réfléchis, à savoir si le train de Bordeaux est arrivé. Ce n'est pas l'heure. D'ailleurs, il n'arriva pas ce soir-là, par suite de la rupture d'un viaduc aux environs de Bordeaux. Presque toute la population du village était au bord de l'eau, figée dans cette résignation silencieuse et farouche qu'on acquiert vite dans la douleur. La Gironde avait l'apparence d'une mer démontée. Des vagues d'un mètre de hauteur fondaient sur la rive avec une telle puissance que la terre tremblait et qu'une poussière d'eau s'élevait au-dessus de l'écume. Le ponton de l'embarcadère n'existait plus, la houle ayant brisé ses amarres. La passerelle résistait encore et oscillait dans l'espace comme le bras d'une grue gigantesque. Il était certain qu'elle ne tiendrait pas longtemps, car ses entretoises vermoulues cédaient et s'émiettaient. Dans le chenal, c'était pire. Deux gabarres, l'étoile 124 et la Guillaume et Rosa s'entrechoquaient. À chaque heure, leur coque résonnait lugubrement. Une dizaine d'hommes, cramponnés au bout d'un câble, allaient opiniâtrement avec des efforts de damnés. Mais le fleuve ne se souciait guère de ces pygmées. Nous assistâmes le cœur serré à la destruction des deux bateaux. L'étoile 124 se souleva de telle sorte que sa proue vint écraser le pont de la Guillaume et Rosa. Une lame la fit ensuite retomber lourdement, et l'eau s'engouffra dans son ventre noir, où béait une déchirure. Cela produisit un gargouillement affreux, et l'étoile 124 s'enfonça jusqu'au plat-bord. Elle ne sombra pas, le chenal n'étant pas assez profond pour qu'elle pût y disparaître. La Guillaume et Rosa se brisa ensuite elle-même, donnant comme un bélier sur l'épave de l'autre gabarre. Une clameur sortit de toutes les bouches, car les tonneaux qui formaient le chargement roulaient, un à un, se crevaient et teintaient le chenal de reflets sanglants. Un homme se débattait comme un fou entre les mains de plusieurs autres. C'était le propriétaire de la Guillaume et Rosa qui voulait se tuer. Ses camarades le retenaient, mais ils avaient l'air de bourreaux, prolongeant avec férocité le supplice d'un patient. La foule reflua en désordre vers l'embarcadère. Nous suivîmes, entraînés presque malgré nous, et nous fûmes obligés de nous arc-bouter pour ne pas être poussé trop près du bord. À moins d'une centaine de mètres, une barque luttait contre le vent et le courant. Elle venait probablement de l'île Verte et essayait d'accoster. Quatre personnes la dirigeaient, ou plutôt la montaient, car elles étaient visiblement incapables de manœuvrer. La curiosité nous maintenait immobiles. Les ongles de M. Natouchou se crispaient sur mon bras, et M. Sternbal remuait activement les lèvres, comme un prêtre qui récite son bréviaire. Un vieux pêcheur gesticulait d'une manière désordonnée. Il s'était tant avancé qu'il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Les mains en porte-voix devant la bouche, il proférait des paroles que nul n'entendait. Ceux de la barque étaient harassés. Ils s'en remplaçaient aux avirons, mais leur esquif valsait de telle sorte qu'on eût dit qu'ils s'ingéniaient à ramer en l'air. L'un d'eux écopait sans relâche. L'inévitable se produisit. L'embarcation bascula sans hâte et se retourna avec une précision de bonne mécanique. Tout le monde se taisait. Le vieux pêcheur s'en revint vers la terre ferme, les poings dans les poches, en homme qui a terminé sa besogne. Les quatre infortunés barbotaient, disparaissaient, reparaissaient, comme des baigneurs novices dans une piscine. Ils étaient si près que nous distinguions deux points noirs, leurs yeux, dans l'ovale blanc de leur visage. Nous savions qu'ils allaient mourir. « Partons, Partons, balbutia M. Sternbal. Nous repartîmes sans nous lâcher, M. Natochou, M. Sternbal et moi, tels trois amis à la sortie du spectacle. L'intensité de la tempête diminuait. Il était plus de 4 heures. Le soleil ne brillait plus. C'était un grand soulagement de ne plus sentir ses rayons. J'avais la peau sèche et brûlante, comme après un accès de fièvre. M. Natouchou ne nous communiquait pas ses impressions. Il n'était pas triste. Un seul mot peut traduire son état. Il était hébété. Dans son trouble, il se moucha avec une étoffe tricolore. C'était son écharpe de mer qu'il avait emportée dans sa poche. Il nous quitta à notre porte. « Bonsoir, Monsieur Cornebal, » dit-il. « Stern, Sternbal, » dit l'opticien avec une nuance d'agacement. « De l'énergie, monsieur le maire. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. » « Heureusement, » fit Monsieur Natouchou. « C'est un bon garçon, » dit Monsieur Sternbal quand nous fûmes seuls. « Mais il n'a pas inventé le moulin à café. Avez-vous remarqué qu'il écorche toujours mon nom ?» Jeanne et sa mère brodaient paisiblement dans la salle à manger. Madame Sternbal décrivit avec minutie ses malaises réels et imaginaires et céda enfin la parole à son mari. Le brave homme, aussi bavard qu'elle, entreprit de compter en détail tout ce que nous avions vu. Quand il acheva son récit, la nuit était presque complète. Je voulus appeler la Barboque pour qu'elle allumât la lampe, mais Jeanne m'en empêcha. « Laissez-moi faire, » dit-elle, « votre femme de ménage n'est pas dans son état normal. »« Qu'a-t-elle donc ?»« dit Madame Sternbal, « je crois qu'elle a trop fêté la dive bouteille. »« La Barboque ? Ce n'est pas son habitude. » Écoutez-la chanter. Dans la cuisine, la Barbaque malmenait la vaisselle en hurlant un refrain. La fille à la taubois, la rillette, la rifla. Je ne supporterai pas cela, dis-je indigné, tandis que Jeanne réprimait une envie de rire. La Barboque, debout devant son fourneau, frappait consciencieusement sur une casserole avec une cuillère d'étain. Elle ne m'entendit même pas arriver. « Eh bien, fis-je ? » Elle se retourna. Elle avait enduit son visage de suie et dans ce masque noir, ses yeux étincelaient comme des escarboucles. « Monsieur, dit-elle, je sais tout cela. Si je fais cuire un morceau de savon, c'est que le catéchisme est important. Mais un godelureau ne me mènera pas par le bout du nez. » Elle venait à moi, les griffes en avant. Je la saisis par les poignets pour me défendre, mais elle se laissa maîtriser docilement. Elle était froide comme du marbre. « Patatras, dit-elle, vous n'empêcherez pas les lapins de sauter sur le caoutchouc. » La Barboque n'était pas ivre. Le soleil l'avait rendue folle. Je ne suis pas très impressionnable. Cependant, l'angoisse pénétra dans mon cœur. J'eus à peine la force de conduire la misérable créature chez son neveu, et je me réfugiai dans ma chambre sans prendre aucune nourriture. Le vent était complètement tombé. Les constellations semaient le ciel de lucioles clignotantes. L'obscurité bleue de la nuit invitait au rêve. Mais que signifiait donc cette chaleur qui m'étreignait, qui m'irritait les poumons, qui me forçait à oublier l'hiver? Le silence était maître de la nature. Un mystère planait. Mais, épuisé par les émotions et les fatigues de la journée, je n'eus pas le courage de chercher à l'approfondir. Je m'endormis en songeant à Jeanne, à notre union prochaine, au bonheur qui nous attendait. Je ne savais pas. Le lancinement de ma blessure m'éveilla. Il faisait nuit encore, mais une lueur indécise éclairait l'Orient et faisait pâlir peu à peu les étoiles. L'Angélus tinta, à petits coups irréguliers et faibles, qui faisaient supposer que le carillonneur était encore ensommeillé. Sous ma fenêtre, un coq s'égosillait. Je le vis chanter, le jabot proéminent, les pattes écartées. Puis il écouta, jusqu'à ce qu'une réponse lui parvint et parut satisfait. Autour de lui, les poules grattaient activement la terre et semblaient échanger des réflexions sur leurs trouvailles. Pas un nuage. L'air était d'une limpidité absolue. C'était encore une journée de beau temps qui s'annonçait, une journée caniculaire. L'aurore fut rouge comme le reflet d'un brasier titanique. Les dernières étoiles s'éteignirent et le soleil m'apparut au-dessus de la maison de Fradinote. Toutes les couleurs changèrent, s'avivèrent. L'Occident demeura teinté d'outre-mer par l'ombre qui fuyait. Le disque aveuglant resta quelques secondes tangent à l'arête de la toiture. Puis il s'éleva dans le ciel. On s'agitait au rez-de-chaussée. Je descendis pour boire le café au lait. Tacitement d'accord, nous évitâmes de parler de la barboque. Madame Sternebal, sainte d'un tablier blanc, avait déjà tordu le cou d'un poulet qu'elle préméditait de faire sauter à la poêle avec des pommes de terre et des oignons. Monsieur Sternebal était inquiet. C'était la première fois depuis 30 ans qu'il n'était pas à son magasin à l'heure habituelle. « Il n'y a pas de train, c'est entendu, » me disait-il en confidence. « Il n'y a pas de bateau, je vous le concède. » Mais je ne puis me résigner quand même. Je m'ennuie. Il m'est impossible de songer à autre chose. J'entends d'ici les voisins jaboter. On est si méchants dans le commerce. Ils vont croire que je suis assez riche pour prendre des vacances, comme un employé de l'État. Sans compter que le lundi est pour nous le meilleur jour de la semaine. Tous les gens des environs viennent s'approvisionner à Bordeaux. Que vont penser mes clients en trouvant mon rideau de fer baissé? Je vous aime bien, Roger, mais vraiment, je regrette d'être venu à Roquedetôt. Je l'écoutais avec patience et déférence. Il vaut mieux laisser parler les gens d'un certain âge. Si on les interrompt, cela les contrarie et ils se mettent en colère. Tu te fais trop de mauvais sang, répondait Madame Sternebal. Moi, je me consolerais s'il faisait moins chaud. Dans ce récit, il est sempiternellement question de la chaleur. Le mot revient constamment au bout de mes phrases, mais je ne puis faire autrement. La température montait sans cesse. Nous vivions dans une étuve. Cet événement que nous cherchions à nous procurer un semblant de fraîcheur. Nous avions renoncé à l'arrosage des parquets, car l'évaporation à la longue saturait l'air d'humidité. Monsieur Sternebal voulait qu'on ouvrît les fenêtres. Madame Sternebal préférait les tenir closes, et j'étais de son avis. On étouffait un peu moins dedans que dehors. L'absence de train nous priva naturellement de courrier. J'en fus désemparé, car j'attendais mon journal avec impatience. J'avais besoin de nouvelles, de bavardage. Je comprenais qu'un cataclysme d'un genre inédit menaçait le monde solaire. Mais ce que je supposais de pire était loin de la vérité.